ça. Ciao.
Allez. Allô, bye.
Salut.
Allô.
Boulevard te tient informé toute la semaine.
Oh, oui.
Marceau le matin, 6h. Le pit stop avec Gravel, 7h45. Oh, oh. Le point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour qui peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parler en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Benoît Dutrisac est notre invité de ce soir. Salut, bonsoir, Benoît Dutrisac. Comment vas-tu?
Ah, ça va. Même si à Montréal, dès qu'il y a un incendie, on ferme le pont Jacques-Cartier. C'est ce genre de journée-là. Mais on vit, on passe à travers. Tout le monde a des problèmes dans toutes les régions au Québec, de toute façon. Ouais.
Mais pour un gars de médias, on regarde tout ce qui se passe dans l'actualité, qu'elle soit locale, municipale, provinciale, fédérale. On dirait que tout est en train d'exploser autour de nous. Là. Au niveau média, c'est le fun parce qu'on a des choses à raconter, mais au quotidien, ouais, c'est weird tout ce qui se passe. Là.
Mais au quotidien, mais aussi à la longue. Et c'est ce que je trouve difficile à gérer, là. Ces temps-ci, je sais pas, ça doit être l'hiver, remarque, mais je trouve ça tough de voir que des trucs qu'on abordait il y a 30 ans, c'est toujours pas réglé. Il y a toujours pas de solution. On n'a pas de. Tu sais, tu me parlais du pont Jacques-Cartier qui a été fermé à peu près toute la journée à Montréal. Tu sais, à Pittsburgh, il y a 446 ponts pour à peu près la même population que Montréal. Et ici, sur la rive sud, tu as 3 ponts et quart, puis un tunnel en réparation qui est en retard. Et puis, il n'y a personne qui se dit, hey, on va peut-être en faire un autre pour les camionneurs, pour les travailleurs, pour les familles qui arrivent en retard. Non. J'ai essayé de parler au ministre des Transports, M. Julien, aujourd'hui, là. Écoute, il était en réunion.
Les réunionnites.
Et ça, c'est plus important que d'envoyer un message aux gens, aux citoyens, de dire « Hey, savez-vous quoi? On va commencer à regarder ça. L'accès à Montréal, de la rive nord, de la rive sud, de l'est, de l'ouest. Puis là, on va avoir un plan de match, puis ça ne prendra pas 20 ans. » Mais je comprends pas. Tu sais, on a une technologie du 21e siècle, puis on n'est pas capable de faire le quart de ce qu'on a réussi à accomplir dans les années 60. Fait que, c'est pareil pour les gens. Hein? Moi, je suis né dans les années 60, puis il n'y a personne qui peut refaire... Non, c'est correct. Je suis en pleine bullshit totale.
Est-ce qu'au Québec, on apprend de nos erreurs? Visiblement pas. Je regardais l'état de nos infrastructures. Toutes les statistiques sont disponibles. Nos infrastructures sont maganées, alors qu'année après année, les gouvernements nous demandent toujours de plus en plus d'argent, que ce soit au municipal, au provincial ou au fédéral. Pourquoi on n'apprend pas de nos erreurs? Pourquoi on ne bâtit pas sur du long terme, sur 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans? Quand on a des projets, quoi qu'il y en a un qui s'en vient, là, le TGV Québec-Toronto, mais quand on a des projets sur plusieurs générations, je trouve pas ça si pire, mais on dirait qu'on est tout le temps en train de patcher partout, constamment, tout le temps.
Oui, mais c'est des projets de société qu'on n'a plus. Puis tu sais, je niaise, là, mais... Le métro, la métropolitaine, Terre des Hommes, c'est toutes des affaires des années 60 qu'on a réussi à accomplir avec une technologie au diesel. Et aujourd'hui, le tunnel Hippolyte-La Fontaine va coûter 1,5 milliard de plus que ce qui était prévu et en retard parce qu'ils savaient, tu sais, puis ils l'agrandissent pas, là. Puis ils mettent pas de la dentelle puis des rideaux, là. Ils font juste remplacer la céramique puis le béton. Puis ça finit plus de finir. Là, écoute, je comprends pas. Puis la réponse, d'après moi, c'est peut-être aussi chez les sous-ministres et les hauts fonctionnaires qui, eux, ne bougent pas. Tu sais, t'as beau changer les ministres, t'as les bons qui disent c'est de même que ça se fait, c'est de même que ça se faisait, puis c'est comme ça que ça va se faire. Parce qu'eux autres, ils veulent pas changer leur façon de faire. Puis ils ont leurs 6 semaines de vacances, puis c'est correct comme ça. Ils veulent pas apprendre de leurs erreurs, parce que dans leur tête, ils n'en font pas d'erreurs.
Pour le contribuable, il en reste-tu de l'espoir? Bon, on parle de la circulation qui est un petit peu plus difficile dans les grosses villes, que ce soit Montréal, Québec, mais il en reste-tu de l'espoir pour ces gens-là? On regarde les infrastructures. Pour mes enfants, il y en a-tu de l'espoir, Benoît?
C'est ça la question. Pour mes enfants, pour nos enfants, qu'est-ce qu'on laisse? Tu as vu l'autre catin qui est à Davos présentement, là, qui a été notre premier ministre pendant 9 ans et demi et qui a doublé la dette. Une dette, là, ça a pris depuis 1867 à atteindre 600 milliards de dettes. Et lui, en neuf ans et demi, il l'a doublé. On est rendu à 1 400 milliards, puis on laisse ça à nos enfants. Des maisons ordinaires qui se vendent à 1 million de dollars.
Oui.
Et c'est ça. C'est-à-dire, comment tu veux te payer ça? Comment les nouvelles générations peuvent se payer ces maisons-là? Alors, tu sais, on voit l'état des choses. On va au supermarché, le beurre est rendu 9 $ la livre. Puis là, tu apprends que les dirigeants des supermarchés, comme M. Laflèche de Métro, se tapent des primes et des bonus à tout casser. Puis après, on se demande, comment ça se fait que tout augmente? Comment ça se fait que le beurre est à 8 $? Comment ça se fait que, tu sais, il faut faire des choix quand tu vas faire des courses dans un pays comme le Québec? Ça m'inquiète. L'état des choses m'inquiète. L'état des écoles, l'état des profs, là, c'est rendu, là, t'as même plus besoin de brevet. Puis moi, je connais des gens, Mme Dutrisac, là, était prof, à un moment donné, elle est diplômée universitaire, et on l'a tellement écœurée pour obtenir son brevet, à lui faire recommencer des cours qu'elle avait déjà fait, à se faire dire par des bonhommes, là, il faut que tu commences en disant, tu es incompétente. Je te niaise pas, là. Là, tu dis, attends, pour le salaire, pour les heures qu'on y met, bien, elle retournait travailler dans les médias. Puis elle dit, de la merde. Puis elle aimait ça, puis elle était bonne comme prof au primaire. Mais ils l'ont complètement découragée. Le système les a découragés.
Comment ça va la radio depuis la rentrée radio de janvier? Puis j'ai fait mes devoirs parce que la semaine dernière, j'étais à l'aéroport international de Montréal et j'ai parlé avec des gens qui sont tes auditeurs, Benoît, et j'ai dit, mais pourquoi vous écoutez du Trisac comparativement à peut-être d'autres personnes? Puis là, je nommerai pas les noms sur l'antenne. Puis
ils m'ont dit,
parce qu'ils parlent des choses qui nous touchent directement.
Ouais.
Puis je me disais, c'est vrai que c'est ça, Benoît Dutrisac. T'es un gars qui semble être directement sur le plancher des vaches, puis tu sembles pas, quand je t'écoute, du moins, tu sembles pas y avoir un gros gap entre les gens qui t'écoutent, puis toi. Je pense que c'est ça qui te rapproche du vrai monde.
Oui, ben c'est gentil. Moi, écoute, j'apprécie que les gens soient là, puis qu'il y ait un contact, tu sais, puis c'est un contact que j'avais créé, que je retrouve grâce au 99.5, que je valorise beaucoup, là, tu sais, parce que, tu sais, quand je me suis fait virer chez les prix Nobel de la radio, sincèrement, je me souviens d'avoir consolé une femme devant un restaurant à Saint-Lambert, sur la Rive-Sud, puis je suis obligé de lui dire, écoutez, je n'ai pas le cancer, là, je vais bien, ils m'ont juste sacré dehors, parce que ça ne marchait plus, c'est le droit de gérance, c'est ça la vie, ça arrive. Mais je me rends compte que, tu sais, tu le sais, tu le fais, tu es dans l'intimité des gens. Puis ça, il a fallu que j'aie un pas de recul pour réaliser à quel point les gens te laissent rentrer dans leur vie. Fait que si tu es là pour parler de ton propre nombril ou de faire comme à Radio-Canada puis de te parler entre vous, tu sais, tu es autour de la table là, puis tout le monde se trouve tellement intelligent, puis cultivé, puis drôle, puis là, tu parles entre toi, puis moi, je te le jure, là, tu sais, à chaque fois qu'on prépare une émission, je me dis, t'es dans ta voiture, est-ce que ça t'intéresse? Puis je dis ça à ma recherchiste, tu sais, est-ce que c'est ça? Pas tant, pas vraiment. Puis des fois, il faut s'intéresser à ce qui se passe à Davos, il faut s'intéresser à ce qui se passe aux États-Unis, il faut s'intéresser, puis je pense que tout ça touche les gens, parce que ça les touche au quotidien. Mais il faut des fois aussi demander simplement comment se fait qu'il n'y a pas plus de ponts autour de Montréal qui est une île. Comment se fait, par exemple, il n'y a pas de restaurant qui donne sur le fleuve Saint-Laurent? Il n'y en a pas. Sur la rivière des Prairies, il n'y en a pas. Comment se fait qu'on ne valorise pas les berges? Comment se fait qu'on en... Tu sais, puis regarde, c'est des questions que les gens se posent. L'éducation, on a tous des enfants, ils se ramassent tous à l'école, ils reviennent avec une réalité dont il faut tenir compte. Il faut se rappeler que les profs devraient être l'autorité en classe, ce n'est pas le cas. Il y a toutes sortes d'influences présentement là, qui rentrent en ligne de compte. Là, tu dis, nos enfants vivent quel genre d'école? Je pense que c'est encore pas pire, mais il ne faut pas laisser dégénérer la situation. Donc, moi, c'est ça qui m'anime. Ma mère faisait des ménages. Elle a fait de la couture sur la rue Chabanel. Mon père a vendu du bois toute sa vie, des matériaux de construction, là, des 2x4 puis du plywood. Fait qu'à un moment donné, tu te dis, il n'y a rien d'acquis, là. Il n'y a rien d'acquis. Moi, j'ai été chanceux, mais la vraie vie, faut juste pas oublier. Puis sincèrement, faut pas oublier quand tu es rendu où je suis rendu, là, puis je le dis avec beaucoup de prétention puis de fausse humilité, souvent, je me souviens quand j'attendais à la réception pour rencontrer des gens en espérant d'avoir un job. Faut pas oublier ça. Faut jamais oublier ça parce que, un, ça peut t'arriver demain matin. Moi, ouais. Je suis pigiste, là. À contrat. C'est de contrat en contrat. Mais il ne faut pas oublier l'humilité dont tu as besoin aussi. Des fois, quand faut que tu payes tes comptes, tu marches sur ton orgueil puis t'essaies de survivre et de payer tes comptes.
Mais tu ne sembles pas avoir perdu contact avec la réalité, même si à un moment donné, bon, tu es devenu, tu as commencé dans le voir, ben, tu as eu plein. Tu as une vie avant ça, mais tu as eu le voir. Après ça, tu as eu les francs-tireurs. Après ça, il y a eu la radio. Là, maintenant, il y a Cube et le 99.5 à Montréal. Tu ne sembles pas avoir coupé contact avec les gens ordinaires parce que probablement que tu as été élevé avec des gens ordinaires. Puis tu connais le quotidien des gens ordinaires. Tes parents n'étaient pas hyper fortunés. T'sais. Fait que des fois, de te poser des questions ensemble, et tabarouette, j'ai moyen de faire l'épicerie cette semaine. Tu sais, c'est quoi ça veut dire?
Ben, c'est notre job là, de se rappeler aussi. Il y en a qui n'ont pas eu ça. Moi, j'ai grandi dans l'antique en bas là, avec trois frères et des parents qui essayaient d'arriver. Puis on a tous nos histoires. Puis moi, je n'irai pas pleurnicher sur la place publique. Là, mais je pense que c'est important, surtout quand tu fais t'es dans les médias. Tu sais, ces temps-ci, je ne sais pas si tu as remarqué, là, depuis comme 5, 6, 7 ans même, je te dirais, j'ai écrit un livre en 97 où je parlais, j'avais écrit à propos des vedettes. Tu sais, les vedettes avec plusieurs U, les vedettes qui viennent toujours pleurnicher. Puis ils viennent dire, oh mon Dieu, j'ai été victime dans ma vie. Oh mon Dieu, j'ai trouvé ça dur. Puis j'en parle pour partager mon expérience, ça va profiter aux autres. Asti que je t'aboute de ça, tu sais. Arrête, sortez votre tête de votre nombril. Tu sais, moi, je ne vois pas de gala pour les plombiers. Je ne vois pas de gala avec des trophées pour des dentistes, pour les pompiers.
Les camionneurs.
Pour les infirmières, les camionneurs. Mais les vedettes ont besoin d'un gala pour se mettre en vedette. Puis ça me tape ses nerfs. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, je ne le disais pas parce que tu dis, si je dis ça, je vais me mettre toutes les vedettes à dos. Puis je me dis, ah, fuck it, qu'est-ce que tu veux? Moi, c'est ce que je pense. Je pense que, tu sais, à un moment donné, il y a trop d'importance accordée à des gens à qui on donne l'importance. Puis la mode des influenceurs, c'est pire que pire. Tu as des gens qui sont connus, sans talent, sans aucune raison, à part d'être influenceurs. Fait que sont influenceurs parce qu'ils sont influenceurs. Ils sont donc connus parce qu'ils sont influenceurs. Ah, je suis trop vieux, ça. Je suis juste rendu trop vieux.
On l'a échappé belle la semaine passée parce qu'Olivier Primeau aurait pu vendre des cartes de membres de la Coalition Avenir Québec et parce que François Legault quitte en plein mandat, la personne qui serait choisie par les membres pourrait devenir premier ministre du Québec. Olivier Primeau, il y a des gens qui ne sont pas capables de le sentir, mais il y a une chose qu'on doit lui donner, c'est qu'il y avait la possibilité de prendre en otage cette course à la chefferie-là. Puis il ne l'a pas fait en disant « je vais le faire par étape, puis je vais bien le faire. » Moi, je salue cette décision-là. Mais on aurait pu avoir une grosse surprise, Benoît.
Oui, moi, je ne suis pas bien d'accord parce qu'il n'y a rien qui nous dit qu'Olivier Primeau était vraiment, vraiment voulu par les membres de la CAQ qui vont voter. Puis Olivier Primeau, je te rappellerai qu'en 2022, j'espère qu'il a réglé son cas, mais il devait 2,2 millions à l'impôt.
Parfaitement d'accord avec ça. On a tous vu ça passer, mais le problème étant qu'il va aller faire un tour à la pizzeria du Trisac, il va te donner un 10 sur 10 sur ta pizza ou sur ta poutine, tiens, puis tu vas avoir ton chiffre d'affaires triplé, quadruplé pour les prochains mois. C'est quelqu'un qui fait énormément réagir.
Mais la
grosse peur...
Mais qu'est-ce que ça te dit, ça? Ben, qu'est-ce que ça te dit? Le gars, tu sais, si Martin Picard vient à ma pizzeria du Trisac, puis il me dit « ta pizza est extraordinaire », pour moi, ça veut dire quelque chose.
Oui.
Si Olivier Primo vient, toi, tu peux venir, puis ton opinion vaut la sienne. C'est quoi? Tu as des papilles gustatives, tout à coup, marathoniennes, là, qui déterminent ce qui est bon et ce qui est mauvais. Ben oui, c'est l'importance qu'on accorde. Ça marche, son affaire, moi, tant mieux pour lui. Mais comme premier ministre...
Ah non, ça aurait pas...
Attends, là, tu sais... Puis sincèrement... On peut casser du sucre sur bien des ministres, des politiciens, puis parfois, souvent, avec raison. Mais moi, je veux quelqu'un de compétent qui connaît le système, qui va être premier ministre, qui ne nous mettra pas dans le trouble. Alors, regarde ce qui est arrivé à Ottawa avec Justin Trudeau. C'est un fils de l'autre, un prof de théâtre, puis regarde la marde dans laquelle il nous a mis.
Entièrement d'accord. Le mauvais caractère de Benoît Dutrisac, ça l'a-tu aidé dans sa carrière ou ça lui a nui?
Quel mauvais caractère?
Ben, je sais pas. T'as une réputation d'avoir un mauvais caractère. Quand il y a quelque chose qui a pas de maudit bon sens, ben, tu te prives pas pour le dire puis le mentionner. Puis ça, ben, ça dérange bien les boss. Je sais pas comment ça se passe de ton côté. Mais quand tu dis ce que tu penses réellement, ça dérange les boss. Puis ça dérange des fois des politiciens puis des artistes qui voudront pas se présenter à ton émission. Est-ce que ça t'a déjà dit?
Mais c'est quoi notre job?
C'est de dénoncer puis c'est de donner notre opinion.
Et de dire quand c'est bon aussi.
Oui.
De féliciter quand c'est approprié. Puis ça, je m'applique à le faire. Tu sais, les pompiers qui ont passé la nuit à éteindre le feu, là, on peut critiquer les pompiers par la suite, mais il faut reconnaître qu'eux autres, cette nuit, pendant que je dormais, eux autres étaient au travail à moins 15, puis ils ont fait la job. Alors, moi, je pense, il y a des fois, tu dis, ça marche pas. Il y a des fois, tu dis, bravo. Parce que ça, il y a un résultat positif. Il faut être capable de faire ça parce que, tu sais, moi, des fois, je suis tanné de m'entendre, là, tu sais. Puis je pense que c'est sain d'être tanné de s'entendre, là. Mais s'il y a colère, sincèrement, là, c'est jamais un profit personnel, puis c'est jamais un spectacle. Il y a vraiment une raison. Il y a vraiment, tu sais, on assiste, là, à ce début 2026, quatre féminicides en trois semaines.
Ouais.
Puis là, il y en a un, là, entre autres, là, fait trois ans qu'il aurait dû être déporté. Puis là, on n'aime pas ce qu'on voit aux États-Unis avec Trump, puis ICE, là, le Immigration and Customs Enforcement, qui débarque au Minnesota, qui va chercher du monde, qui se trompe, qui ont tué une femme. C'est insensé. Mais tu dis... Ce gars-là aurait dû être déporté. Il a finalement tué sa femme. Si on l'avait déporté, ça se fait jamais avec des câlins. Ça se fait jamais avec des mots doux. C'est rough. Ça peut être même violent. Mais à un moment donné, il faut passer de la parole à l'acte. C'est un peu ça aussi. Là. C'est qu'à un moment donné, tu dis, tu peux bien dénoncer du bout des lèvres ou tu peux bien dire, hey, à un moment donné, il faut que ça arrête. Là. Il faut que ça arrête, il faut qu'il y ait quelqu'un de redevable. Le REM ici, là, il marche une fois. Quand il neige pas, là, quand il ne fait pas trop froid, là, il marche. Il va coûter 9 milliards. C'est M. Arbault, l'année passée, il a reçu une prime de 700 000 $ à la Caisse de dépôt. Je ne suis pas toi, moi, je n'en ai pas eu de prime. Puis j'ai fait ma job, puis je pense que j'ai fait correctement. Il y a bien du monde, tu sais, les infirmières, là, qui travaillent la nuit, ils ont une petite prime parce qu'ils travaillent la nuit, puis là, c'est calculé au gouvernement. Il y a des gars, des hommes, des femmes qui ont des primes hallucinantes, puis leur job n'a même pas été bien fait. Moi, comme citoyen, je suis en droit de dire ça me gratte la poche.
Puis c'est ça ta job, c'est bien correct. Je veux savoir, dans ta carrière, depuis que tu as commencé, ton caractère, il t'a aidé ou il t'a nui? Je suis tannant, hein?
non, c'est drôle. Oh, non, ça m'amuse. Ça m'amuse parce que à un moment donné, tu peux pas... Tu sais, dans notre métier, là, il se dit des affaires à notre sujet. Puis à un moment donné, tu peux rien contrôler. Là,
ouais.
Sincèrement, tu peux rien contrôler. Moi, j'ai appris à dire « fuck it ». C'est ça que tu penses. Moi, je n'ai rien à branler. Moi, je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Puis si ça ne fait pas ton affaire, tu sais, prends des pilules aux 4 heures, puis va te soigner. Moi, je ne peux rien faire pour toi. Cette histoire d'avoir un sale caractère, tu sais, je ne sais plus quoi répondre à ça parce que moi, je travaille avec des gens, là, puis je ne pense pas qu'ils soient traumatisés. Tu sais, je pense que je prends soin des gens avec qui je travaille. Je pense que des fois, il faut être directif. Ça ne veut pas dire que tu donnes la merde à quelqu'un, mais il y a des fois, il faut que tu sois capable de dire voici comment on fonctionne, surtout quand c'est avec, tu travailles avec des jeunes. Mais si tu les laisses faire puis ils font des erreurs, tu ne leur rends pas service. Si tu vas au restaurant puis tu dis, puis ce qu'on les restaurateurs me disent aussi, tu vas au restaurant, le repas n'est pas bon, tu ne le dis pas, tu n'aides pas le restaurateur parce qu'il va perdre des clients. Si tu leur dis, il va le corriger, puis ça va être meilleur, il va garder ses clients. Moi, je pense à la même affaire. Je travaille avec des jeunes, beaucoup, puis il y a des fois, je peux être directif, mais j'engueule personne, je frappe personne, pas de coup de pied, pas de morsure, pas de...
Ma question était sur les politiciens puis les artistes. Il y en a-tu qui veulent pas aller voir du Trisac, puis ils veulent aller voir leur beau Patrick?
Ben, c'est ça, ça les regarde. Ils ont le droit. Le problème avec les politiciens, c'est qu'ils sont tenus de parler aux médias. Qu'ils ne me parlent pas à moi, je suis correct, mais qu'ils parlent à quelqu'un, par exemple, et que cette personne-là ne soit pas en train de renifler le péteux, qu'ils posent des questions qui doivent être posées. Moi, je ne suis pas un juge, je ne suis pas un juré, je ne suis pas un bourreau, je ne suis rien, j'ai aucun pouvoir. J'ai zéro pouvoir. Mais si, dans mes questions, je rejoins les gens qui se disent c'est ça, je l'entends comme question. C'est la réponse que je cherche. Puis là où les politiciens échappent le ballon, c'est... Moi, il y a des politiciens qui arrivent, là, puis je leur pose une question. Puis bon, peut-être qu'ils la trouvent difficile. Mais quand ils réussissent à y répondre, c'est eux qui en bénéficient.
Ouais.
C'est eux qui en sortent meilleurs. Moi, je me souviens d'entrevue avec Marois Risky, elle se ramasse au Parti libéral. Marois Risky, moi, je l'avais accueilli à l'autre radio, parce que je l'avais entendu comme avocate fiscaliste participer à des commissions parlementaires. Puis j'ai dit, cette femme-là est brillante, puis elle est droite, puis elle en a assez des paradis fiscaux puis des entourloupettes. Puis je l'ai mise en onde. À un moment donné, je la reçois comme politicienne. Il faut que je fasse ma job. Puis elle répond, puis elle est assez intelligente pour dire, c'est ça la question, voici la réponse. Mais quand tu es incompétent, quand tu es peureux, quand tu as des... C'est sûr que tu viens pas. Puis je suis correct, je m'en fous.
Y a-tu des politiciens, des artistes avec qui parfois tu étais dur parce que tu jugeais que c'était important de l'être parce que ça avait pas de sens? Puis des politiciens, les mêmes, que parfois tu disais, OK, ça, ce qu'il a fait là, je suis entièrement d'accord avec lui, puis qu'il allait te voir tout le temps, peu importe s'il savait qu'il allait avoir une trolley de bois vert ou s'il allait avoir des bons commentaires de la part de Dutrisac. T'en as-tu en mémoire?
Non. Mais il y a pas de, moi, je ne suis pas en position d'autorité. Fait que je n'ai pas à donner de la merde à personne. C'est pas comme ça que je vois ça.
Non.
Moi, je suis là, puis j'essaie d'être poli tout le temps, mais de ne pas me faire empisseter. Ça, c'est la pire affaire. T'sais, Fadi Daguerre est venu il y a un an, plus d'un an, en décembre, puis en 2024. Puis il venait d'avoir du saccage au Palais des Congrès en novembre 2024.
Ouais.
Par la gang de crinqués pro-Hamas, pro-Palestine, whatever. Là, je dis, pas d'arrestation. Les policiers sont là, on les filme en train de briser les vitrines du Palais des Congrès. Il n'y a pas d'effet dissuasif dans le genre. Puis moi, j'ai eu deux mononcles dans les années 70 qui étaient policiers, dont un sergent détective qui conduisait la voiture pendant que son partenaire tirait Monica la mitraille. OK? Fait que lui, puis j'ai eu une relation privilégiée, c'était le frère à ma mère, vraiment privilégié. Puis la façon dont les policiers fonctionnaient, tu sais, je comprenais comment ils me le racontaient, ils étaient sergent détective. Aujourd'hui, tu as des policiers qui sont là, on les affecte à être percepteurs de taxes, à surveiller la circulation, puis se cacher, puis ça moi, j'ai de la sympathie pour eux autres parce qu'ils ne sont pas formés pour être percepteurs de taxes, puis des touristes. Parce qu'on les oblige à ne rien faire quand, je le sais, que les policiers et les policières voudraient intervenir. OK, on a un problème. il n'y a pas d'effet dissuasif devant un groupe qui casse tout au palais des congrès. Fadi Daguerre m'a dit en décembre 2024, vous allez voir, en janvier 2025, il va y avoir des arrestations. Mais ils sont tous masqués. Ils étaient tous, tu te souviens, ils étaient tous masqués. Bien, à ce jour, il n'y en a toujours pas eu. Fait que peut-être que. Puis Fadi Daguerre ne revient plus en entrevue. Je l'ai choqué, il m'haït, il me déteste et tout le SPVM me déteste maintenant. Bien, je suis désolé, mais eux autres, leur rôle, c'est d'assurer l'ordre et la loi puis la paix sociale.
Oui.
Mais
arrêter le criminel, peu importe sa couleur, peu importe sa religion, si c'est un criminel, on devrait l'arrêter plutôt que de dire « Ah, pauvre petit, il n'a pas eu une enfance facile, on va y laisser encore une chance. »
Bien oui, puis je pense qu'il y a un effet dissuasif dans un groupe, quand t'en pognes un ou deux, puis là, ça va faire, t'embarques, puis on t'amène au poste, les autres vont peut-être se calmer. Puis s'ils se calment pas, bien, t'es embarques aussi. Parce que le message, c'est, on tolérera pas la violence à Montréal. Et là, c'est plus ça le message. C'est si on voit pas ta face, tu vas t'en tirer. Ça peut pas fonctionner de même. Puis moi, je suis assis sur mon gros cul, derrière un micro, c'est facile pour moi de dire ça. Mais j'ai l'impression, puis à parler à Yves Franca de la fraternité, que les policiers, policières, je te parle à Montréal en tout cas, puis je pense à Québec aussi, vivent une certaine frustration de ne pas avoir l'ordre du commandement de dire « intervenez, là, ça va faire, faites le ménage là-dedans ». Puis je pense que c'est ce que les citoyens veulent.
Oui, mais ils ont constamment peur de se faire accuser de faire du profilage racial. Parfois même, ils vont dans des endroits et ils se disent « Garde, c'est pas notre affaire, on va aller ailleurs, on va aller arrêter deux tremblés, on s'en fera pas, on se fera pas suer avec ce qui se passe ici. » Ben avec les deux tremblés, par exemple, ça va bien passer.
Mais ça, c'est dangereux parce que c'est des engagements.
Ouais.
Puis c'est vrai que les policiers, quand ils interviennent, puis encore une fois, si tu procèdes à une arrestation, c'est sûr que ça va être violent. Tu sais, c'est violent, une arrestation. Mais là, tu as toujours une gang de coin-coin qui sont là en train de filmer, puis de prendre ça hors contexte. Puis tu viens, les policiers à Québec, on les avait filmés, mais ils n'avaient pas filmé avant, puis ils n'avaient pas filmé après. Puis là, il y avait l'air une gang de racistes, de fascistes, de néo-nazis, de chemises brunes. Puis là, tu te rends compte que, oh, là, ils intervenaient auprès d'un gros, un gang de rue qui emmenait l'âge, puis qui était criminalisé. Puis ils les ont brassés, mais moi, j'ai pas peur de me faire brasser par la police. Je pose pas de gestes criminels.
Qu'est-ce qui se passe à Montréal pour ce qui est des manifestations? Vous avez un imam qui a déjà dit « on va éradiquer les Juifs ou aller tuer les Juifs sur la Sainte-Catherine, si je me trompe pas. » Puis on a analysé tout ça, puis on a dit « bon, il n'y a pas de geste criminel qui a été posé. » Ça n'a pas de bon sens. Il y a plein de choses, des manifestations qui se font, qui se disent, puis on dirait qu'il n'y a jamais, jamais, jamais de problème à tout casser à Montréal.
As-tu remarqué qu'il n'y a pas de manifestation pour l'Iran présentement? Tu sais, aux dernières nouvelles, là, on parlait de 16 500 tués, assassinés, 330 000 blessés, selon les hôpitaux iraniens là, qui ont mis un rapport. Là-dessus, il n'y a pas de manifestation. C'est correct. On parle de Trump, on parle du Groenland, on parle du Minnesota, mais l'Iran, on a complètement oublié ça. Bien, sais-tu quoi? Si tu as des propos haineux, mais dans un contexte religieux, t'es correct. Et ça, c'est la loi au fédéral qui décide ça. Puis le gouvernement Trudeau, Justin, et le gouvernement Carney ont décidé de ne pas changer la loi. Donc, si tu dis dans un contexte religieux, tu peux couper les oreilles à tous les animateurs de radio parce que ton Dieu te l'a ordonné, c'est correct. Fait que si tu as des gros mots à dire, fais-le dans un contexte religieux.
Mais Montréal est un safe space pour Adil Sharkawi. Il peut dire n'importe quoi, il peut faire n'importe quoi. On va toujours se poser des questions à savoir si c'est correct, c'est pas correct ce qu'il a dit, puis on va toujours le laisser s'en sortir. Coudon, c'est-tu un informateur du SCRS, Adil Sharkawi? Il travaille-tu pour la GRC? Il donne-tu de l'information qui fait en sorte que quand il fait des niaiseries, il s'en sort tout le temps?
Une bonne question. Moi, je pense qu'il est à l'aise au Canada. C'est pas juste Montréal. C'est le Canada qui a décidé qu'on le gardait. Puis on est impuissant face à ça. Il est mort de rire. Lui, tu nommes lui, mais il y en a combien d'autres, là? Puis sincèrement, moi, c'est toutes les religions, là. Quand tu tombes sur des crinqués de toutes les religions, lui en particulier, là, mais tu dis, on n'intervient pas, on laisse aller, on laisse. Écoute, c'est un vieux débat. Tu sais, moi, je suis tellement écœuré de parler de ça, là, tu sais, l'entrisme religieux, que ce soit dans les écoles, en société, dans les hôpitaux, dans les cafétérias. Puis moi, je vais te dire une chose, Legault, on a beau le critiquer, la loi 21 puis la loi 96, là, c'est une réussite.
Elle avait sa place.
Pour amener la paix sociale, c'est un succès. Fait que, tu sais, ça, on ne peut pas lui enlever. Je t'invite à lire aujourd'hui dans le Globe and Mail un portrait de Samira Lahouni qui s'était présenté pour Thomas Mulcair pour le NPD, que j'avais interviewé et m'a dit, j'avais reçu des messages vraiment sympathiques par la suite, qui se présente en victime. Et ça, là, ça, c'est tellement insidieux parce que si tu veux parler aux jeunes puis leur dire que la société dans laquelle ils vivent n'en veulent pas, n'en veut pas de ces jeunes-là, il n'y a pas meilleur discours. Et ces jeunes-là vont se retirer de la société, puis ils vont se radicaliser parce qu'ils vont se dire, parce qu'on s'en fait dire que la société ne veut pas d'eux. Ça, c'est dangereux. Puis t'as beau dire, on intègre les gens dans les écoles, la religion à la maison, c'est déjà trop. Puis on va utiliser ça pour dire aux jeunes, méfiez-vous, ils ne vous aiment pas, restez en groupe, restez parmi vous, puis mélangez-vous pas trop. Puis ça c'est une recette cocktail parfaite là, pour une tempête d'enfer.
Benoît Dutrisac, est-ce que la ville de Montréal, c'est l'air nouveau depuis que la mairesse a quitté, depuis que Valérie Plante est partie en vacances puis qu'elle a été remplacée, est-ce que tu sens un vent de changement à Montréal?
Non, je sens une brise. Pas un vent, pas un gros vent.
Une petite brise,
tu sais, qu'il faut vraiment voir ce qui va se passer. Moi, j'y crois pas encore. Tu sais, on voit pas beaucoup de différence. Tu te promènes dans les rues de Montréal, c'est tout défoncé. Puis c'est pas juste Mme Martinez-Ferrada, là. Tu sais, c'est Valérie Plante, mais c'est Gérald Tremblay, puis c'est Denis Coderre. Puis c'est, tu sais, c'est... Écoute, moi, en 89, pour voir, j'étais allé interviewer Léa Cousineau, qui était la présidente du comité exécutif de Montréal, sous Jean Doré. Puis elle me disait que là, son administration devait compenser pour celle de Jean Drapeau, qui n'avait jamais mis d'argent dans les infrastructures. Puis que c'est pas, tu sais, ça fait 45 ans qu'on nous répète la même cassette, puis que les rues, ils font, ils défont, ils recommencent. Tu sais, ça dure pas. Puis on est au 21e siècle, puis on n'a pas trouvé la technologie pour construire des rues et des routes à l'épreuve de l'hiver. Je comprends pas.
On a la misère à s'organiser. Puis ce matin, je faisais ma lecture des différents quotidiens, puis je suis tombé sur un article. Je pense que c'est dans la presse que j'ai vu cet article-là. Ça a coûté 17 millions de dollars de plus pour payer des pompiers qui, eux, avaient leur équipement qui était nettoyé. On devait payer les pompiers qui étaient en service, mais si les pompiers qui étaient en service n'avaient pas accès à leur équipement qui était parti au nettoyage, fallait en plus demander au gars qui était en congé, « Tu peux-tu rentrer, toi, ton équipement est propre, viens-t'en à la caserne. » Je veux dire, à Québec, ce qu'on a appris ce matin, parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui nous ont écrit, c'est que toutes les casernes ont des laveuses industrielles. Sont capables de laver leur propre stock, ce qui fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin d'appeler un autre pompier pour rentrer à sa place. Fait qu'il n'y a pas de temps supplémentaire qui est octroyé pour ça. Mais de voir qu'on ne se pose pas de questions à la Ville de Montréal, hey, où est-ce qu'on pourrait couper dans le budget? Oh, tabarouette, 17 millions par année pour du travail supplémentaire parce que les pompiers n'ont pas leur équipement. On peut-tu leur acheter d'autres équipements? Ben oui, on peut le faire. On peut-tu acheter des laveuses industrielles puis les mettre dans chaque caserne? Les gars sont capables de le faire. Ils ne se sont jamais posé cette question-là. Ils payaient année après année, puis ils payaient.
Je ne savais pas ça. Vraiment, je déménage à Québec. Je suis tanné de Montréal. Je suis tanné d'entendre ces affaires-là. Tu sais, c'est l'exemple. Vraiment, je ne l'ai pas vu passer, celle-là, aujourd'hui. Puis je me dis, c'est incompréhensible. Incompréhensible. Au 21e siècle, en 2025-26, tu sais, qu'on ne soit pas capable de gérer nos affaires comme du monde. Tu sais, les policiers me disent la même affaire. Ils me disent que là, ils manquent de voitures. Il y a des policiers qui restent au poste parce qu'il n'y a pas de voitures. Tu sais, ou sont pas... ne sont pas en ordre ou ils n'ont pas été réparés. Ah, tu sais, vraiment, tu sais. Puis c'est pas comme s'il manquait de gestionnaire. Je sais pas ce qu'ils font de leur journée.
Ouais. Mais à Québec, on n'est pas plus avancé, là. On est sur le pont de Québec, la réfection du pont de Québec, la rénovation du pont de Québec. Le pont de Québec va-tu s'écrouler? Non, il s'écoulera pas. On va le réparer. Ah, on va abaisser le tablier. Les camions vont peut-être pouvoir un jour passer si on abaisse le tablier. Est-ce qu'on va faire passer le futur tramway là-dessus? Ah, il n'y aura pas assez de place pour faire passer des camions à côté. Depuis que je suis jeune, les années 80, je suis né en 76. Dans les années 80, Benoît, j'entendais parler de faire repeindre le pont de Québec encore à ce jour, en 2026, 46 ans plus tard. Le pont de Québec n'est toujours pas repeint. On tend à remplacer certains morceaux pour pas qu'ils s'écroulent, mais à un moment donné, il va y avoir peut-être une tragédie, puis on se le souhaite pas. Ça fait des années, si c'est pas 10-15 ans qu'on parle du maudit tramway. À un moment donné, on peut-tu se décider? On peut-tu l'avoir, le tramway? Là? Parce que plus on retarde, plus ça va nous coûter plus cher. Le troisième lien, t'aimes ça, des ponts? Tu vas en mettre un 128e à Montréal. Le troisième lien, qui serait un deuxième lien à long terme, ça fait 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'on en parle. On fait juste parler. Il n'y a rien qui se fait.
C'est aberrant. Puis, sincèrement, moi, tout le long, là, tu peux vérifier, moi, tout le long, j'ai dit, hey, Québec, là, c'est une belle ville. Québec, là, mérite qu'on investisse, qu'on investisse dans le transport, qu'on s'assure qu'il y a de la circulation. Ici, à Montréal, là, j'ai parlé à des camionneurs, s'ils peuvent éviter Montréal, ils s'embourbent. Ils passent par le pont de la Violette pour rentrer de l'autre côté parce que c'est impraticable. Je comprends pas qu'il y a aucun gouvernement qui a dit hey, on va mettre de l'ordre dans nos villes principales. Tu sais, il y a des besoins partout, là, mais je pense à Montréal, Québec, là, ça devrait être les priorités du gouvernement. Mais je comprends pas. Moi, le troisième lien, là, trouver une façon, creuser ces fourraides. Mais un pont, ça peut être beau, un pont. Ça pose un de défigurer le paysage, s'il est beau. Fait que, il me semble que tu trouves des solutions et tu passes à l'action. Puis comme tu dis, plus tu attends, plus ça coûte cher. Fait qu'on règle rien, on pèle par en avant parce que les politiciens n'ont pas le courage de dire « ça suffit, ouais. On va le faire, puis c'est comme ça qu'on va le faire ». Puis s'il y a des crosseurs, on va s'assurer de les pogner puis de les envoyer en prison.
Puis quand on a commencé à parler du troisième lien à Québec, les gens nous disaient « Ouais, mais les statistiques nous disent qu'on n'a pas besoin de troisième lien à Québec. » Et là, je leur posais des questions, les politiciens qui passaient devant moi, puis je leur disais « Bien, advenant le cas où il y a une tragédie sur le pont Pierre-Laporte, c'est quoi le plan B? Où est-ce que les camionneurs vont devoir passer? » Plan B à Québec, et ça venait de François Bonnardel, le plan B à Québec, c'était de faire un détour par Trois-Rivières. C'est un détour de 200 km pour les camions, si jamais le pont Pierre-Laporte ne pouvait pas être praticable pendant quelques jours ou quelques semaines. On ne souhaitera jamais que ça arrive parce que les camions, ils ne peuvent pas passer sur le pont de Québec. Mmh. Ça prend un pont supplémentaire pour être sûr et certain que si jamais il y a une catastrophe dans ce secteur-là, on peut juste faire le détour de l'autre côté sans aucun problème.
Mais je comprends pas. Puis je me souviens de cet exemple-là. Là, s'il y a un problème avec un des ponts, tu passes par Trois-Rivières, puis c'est 200 km. Puis je me souviens de dire, voyons, quel genre de république de bananes on est rendu?
Ouais.
Tu sais, puis la technologie des années 60, là, si on avait des hommes et des femmes des années 60 là, en position de décision, je pense que ça serait déjà réglé, il serait déjà construit. Mais tout est compliqué, tout est lourd, tout le monde est fatigué, tout le monde se demande « est-ce que je prends la bonne décision? » Ça veut dire qu'il n'y a personne qui dit « moi, je suis nommé, je suis ministre, je suis directeur, moi, je vais prendre la décision, puis je vais l'assumer, là, ce qui est les répercussions de cette décision-là. » Ça prend du courage, puis on a l'air à manquer de courage. Fait qu'à Québec, c'est pareil, puis il n'y a pas 178 ponts là, ici, là. Tu sais, il n'y en a pas bien. Tout le monde capote. Là. Dès qu'il y a un accès à Montréal, il est bloqué. C'est l'enfer.
Vous êtes une métropole. C'est clair et net que quand il y a un pont principal qui flanche, ça crée un bordel partout en ville.
Mais le problème, c'est que pendant 8 ans, on a eu une mairesse qui venait de l'Abitibi, qui pensait que Montréal, c'était un village. Puis elle voulait que ça soit géré comme un village. Que, c'est une métropole. Fait qu'on peut-tu traiter Montréal comme une métropole, traiter Québec comme la capitale, puis chacun a son rôle à jouer, puis on joue ensemble dans la même équipe. On n'est pas en compétition. Fait que ce qui est donné à Québec, ça n'enlève rien à Montréal, vice-versa. Mais il y a toujours ce discours de « on ne le donnera pas à Québec parce qu'on ne veut pas que Montréal… » C'est pas, on n'est pas des enfants de 3 ans, calvaire. Voyons donc, on a un territoire qu'on veut habiter. On peut-tu travailler ensemble? On peut-tu travailler en équipe? Ça n'a pas l'air.
Trouves-tu des fois qu'on est particulier, les médias au Québec? Je parlais avec un Mexicain, un barman mexicain. Pendant le temps des fêtes, je suis allé faire un tour au Mexique. Et il me demandait de quoi on parlait dans les médias. Puis là, je racontais qu'à Montréal, bon, on avait des manifestations religieuses dans les rues, patati et patata, taux de criminalité qui était quand même assez élevé. On essaie de faire en sorte que les villes soient plus sécuritaires au Québec. Après ça, il me dit, OK, puis toi, tu travailles à Québec? Oui, je travaille à Québec aussi. De quoi vous parlez? Bien, on parle du tramway, du troisième lien. Puis là, il m'a regardé. Vous parlez du tramway, du troisième lien? Ouais, ça fait des décennies qu'on parle du tramway, du troisième lien. Puis il a dit, OK, bien, nous, ici, au Mexique, quand on a besoin d'un pont, on le bâtit. Quand on a besoin d'un tramway, on le bâtit. On passe pas nécessairement des semaines et des semaines avec des policiers. On a besoin d'un pont, on le demande. Si c'est possible, ils nous l'offrent. Sinon, on passe à d'autres choses.
Ah, c'est incroyable. Moi, j'ai une question pour toi. Comment tu vois tes 50 ans?
Comment je vois mes 50 ans?
Ouais.
Ah, je veux travailler. Je veux travailler dans les médias, ça c'est sûr. Comment je vois mes 50 ans? Je vais être encore dans les arénas avec mes gars. Sur quel aspect, mes 50 ans?
Non, mais c'est un tournant, là. T'sais, moi, j'ai pogné 60. J'ai 64, là. Puis quand j'ai pogné 60, là, ouais. J'ai failli virer comme un psychopathe. Je voulais tuer tout le monde. J'étais en crise. Là, ça va mieux, là. Mais j'ai 60 ans, là,
ouais.
C'est vraiment le début de la fin. C'est la décennie de toute la merde, des cancers, de la prostate, le cœur, tu sais, toute la merde arrive quand tu prends la soixantaine. La cinquantaine, c'est comme ta dernière ride, vraiment. T'as comme les 10 prochaines années, là, profites-en parce que quand tu prends 60, t'es moins pertinent.
Ouais, j'y vais au jour le jour. Je vais vraiment au jour le jour pour ce qui est de ma vie en général, ce qui fait en sorte que c'est peut-être un peu moins lourd, mais je comprends ce que tu me mentionnes. C'est-à-dire, quand tu pognes la soixantaine ou quand tu pognes la cinquantaine, là, tu disais un peu, là dans ces 10 ans-là, il va m'arriver telle affaire. Je ne suis pas, ouais. Je suis pas comme ça, ce qui fait en sorte que je peux peut-être être un peu plus positif au jour le jour.
Ils ont quel âge, tes gars?
Mes gars, ils ont 10 ans et 12 ans, Benoît.
Ah, OK. J'aime bien ça. Non, mais hey, sais-tu quoi? Je vais te dire une chose. Moi, j'en ai 4 ans. J'en ai un, il va avoir 35. Ma fille a eu 33. Mon fille a 16 ans, puis mon gars va avoir 15 ans. Puis quand on parle des adolescents, puis je parle de tes gars en même temps, là, ben, j'allais faire une blague, puis je me suis ramené à l'ordre moi-même. Parce qu'on a ce discours-là, nous autres, les vieux. Là. Toi aussi, là, tu as 50 ans, t'es un vieux en passant. T'es fadoc, hein? À 50 ans, tu es devenu fadoc.
Pas encore.
Je t'informe de ça.
Pas encore. Non, non. C'est cette année que je le pogne, là.
Ah ouais, je sais. Tu as de la misère à ramasser tes boules de pétanque. Mais quand on voit des jeunes grandir, c'est pas vrai que tous les jeunes sont des ados détestables.
Ah non.
Qui deviennent des Mongols ou des psychopathes ou des tueurs en série. C'est pas vrai. Il y a des ados, là, qui sont vraiment cool, qui grandissent, là, puis tu les regardes aller, puis c'est le fun. Ils font des erreurs. Ils ont des écarts de comportement, de langage. Tout ça, là, c'est vrai, c'est possible. Ça... Mais c'est pas des monstres. Puis on a tendance à dire que les ados dans la culture populaire, là, c'est des débiles. Tu sais, c'est une sorte d'affaire. Puis là, les parents qui disent « Oh mon Dieu, ça va être l'enfer. » Non. Les ados là, vont vous regarder agir, vont vous regarder vous comporter, puis ils vont s'inspirer de ça. Que si vous êtes un bon modèle comme parent, puis je vous dis, je suis pas un donneur de leçons, là, je suis pas un donneur de leçons, mais mon expérience, c'est que quand tu es moindrement équilibré, là, en général, avec tes ados, ça va bien. Fait que, puis j'avais participé à une émission qui s'appelait Ici Ado Canada, il y a une trentaine d'années. Puis c'était un truc à Radio-Canada, puis on m'avait engagé comme script éditeur, puis whatever. Puis j'avais gardé ça en tête. J'étais dans la trentaine, là, puis je me dis, c'est pas vrai qu'on va parler des jeunes, des ados, là, tes gars, 10-12 ans, des pré-ados, comme des bébites en laboratoire qu'il faut examiner sous un microscope. Il faut les laisser vivre, il faut leur donner des directives, il faut leur donner des marges de manœuvre, puis aussi leur faire confiance. En général, là, je pense ça, en général, ça marche.
OK. Mais la cinquantaine ne me fait pas peur. La soixantaine a de l'air à t'avoir fait peur, puis pas pire, là.
Ben, sais-tu quoi? Moi, vraiment, ça va bien. Là, je fais des bilans de santé, puis les hommes qui nous écoutent, allez-y. Allez-y vous faire checker la prostate. C'est un doigt dans le cul, là, vous n'allez pas mourir. Les femmes subissent toutes sortes d'examens, tu sais, puis nous autres, on est là à pleurnicher parce que, tu sais, pendant 4 secondes et demie, ton médecin qui fait un acte médical examine ta prostate. Allez-y, faites des tests parce que moi, autour de moi, là, tout à coup, là, j'en connais 4 là, qui ont eu un cancer de la prostate. Puis moi, mes résultats sont vraiment très bons, là, puis ça va bien, là, puis je l'apprécie. Mais que les hommes, tu sais, les hommes, là, il y a un bruit sur ton char, tu l'amènes au garage tout de suite, puis là, tu es bien inquiet. Toi, là, tu commences à avoir des symptômes, puis tu dis, oh non, moi, ça va passer, je n'irai pas chez le médecin. Allez-y, allez vous faire examiner.
Prenons donc une pause, Benoît Dutrisac.
Okay.
Ce soir, on a le plaisir d'être avec l'animateur du 99.5, Benoît Dutrisac. On va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Retrouvez tous les podcasts de Boulevard 102.1, nos entrevues et nos meilleurs moments sur la chaîne YouTube de Boulevard 102.1. Découvrez nos podcasts originaux.
Les grands événements de Québec avec Denis Gravel.
Classe à part avec Sylvain Dancause.
Sextape avec Audrey Pinchot.
Le Roadcast avec Samuel Tremblay-Michaud.
Le podcast de Gravel dans le retour.
Et bien plus.
Les intellectuels, ça part.
Réécoutez aussi les grands rendez-vous de Boulevard 102.1.
Le Pit Stop de Denis Gravel.
Le caucus avec Anthony Niacarini.
Retrouvez le meilleur contenu de Boulevard 102.1 sur notre page YouTube. Abonnez-vous.
Ce week-end, les Remparts vous promettent deux gros matchs au Centre Vidéotron. Vendredi 23 janvier, 19h, contre l'Armada. Place au match Héritage. En hommage au Blizzard du Séminaire Saint-François, les Remparts porteront un chandail spécial pour célébrer l'histoire qui relie les deux équipes. Dimanche 25 janvier, 15h, face aux Wildcats, place au match de la relève, présenté par CGI et Enfants Soleil. Les enfants prennent le contrôle du Centre Vidéotron comme mini-stagiaires. Et l'entrée est gratuite pour les 12 ans et moins. Billets en vente au rempart.ca.
Vous cherchez un condo à Lévis avec gym, piscine extérieure, lounge et qui accepte votre toutou? Découvrez l'Archipel. Promotion en cours? Détails au appartementurbain.ca.
Projet de construction ou de rénovation en vue? Armoire Lévis transforme vos idées en réalité et ce depuis plus de 45 ans. Cuisine, salle de bain ou rangement? Nos armoires sur mesure allient style, fonctionnalité et qualité. Venez nous rencontrer sur Président Kennedy à Lévis ou visitez armoirelévis.com. Denturologiste depuis plus de 10 ans, Dominique Pilote est reconnue pour son approche humaine et son travail minutieux. Elle vous accueille maintenant dans sa nouvelle clinique à Saint-Augustin-de-Desmaures. Venez rencontrer une équipe jeune et dynamique. Consultation gratuite et assurance gouvernementale acceptée.
En janvier, pour se réchauffer, un seul endroit pour déguster la meilleure poutine à Québec, et c'est dans vos fromageries Victoria. Avec nos 5 choix de sauce, nos frites fraîches et notre fromage en grains 100% lait provenant des fermes d'ici, nous en avons pour tous les goûts. Fromagerie Victoria, familiale depuis 75 ans.
Et vos plus constructions recrutent. Ici, on croit à l'esprit d'équipe. Bière-dredi, activité trimestrielle qui rassemble et plus. Vous profitez aussi d'un 100$ par semaine pour votre véhicule et d'une conciliation travail-famille. Envie de faire partie d'une équipe qui évolue ensemble? Evo Plus Construction vous attend. En 2026, rester concurrentiel passe par l'efficacité et la productivité. Leclerc Robotique conçoit des solutions d'automatisation sur mesure pour votre production afin d'améliorer la cadence, la constance et la sécurité. Leclerc Robotique, la productivité bien intégrée. LeclercRobotique.com.
Cette année, prends pas de résolution. Prends une décision et choisis-toi. Santé, performance, énergie, XPN, des suppléments conçus ici, efficaces, testés, approuvés et qui donnent des résultats. Repousse tes limites et visite le xpnworld.com.
En janvier et en février, profitez de rabais exclusifs sur une sélection d'attaches remorques chez Attaches Remorques Québec. Travail ou loisirs, équipez votre véhicule de manière sécuritaire et durable. Des experts sur qui vous pouvez compter. Attaches Remorques Québec, c'est du solide.
L'hôtel Terrasse Dufrain, c'est convivial, chaleureux, accueillant. Sans parler de la Terrasse Dufrain, le Cachet, le Vieux-Québec, c'est tellement beau. Stationnement disponible sur place. Suivez-les sur Facebook ou Instagram. Pour réserver au meilleur prix, réservez dès maintenant sur terrassedufrain.com.
Chaque maison a une histoire à raconter. Chez Atelier Origine, on écrit la vôtre une pièce à la fois. Design, mobilier, décoration, tout est pensé pour refléter qui vous êtes. Atelier Origine, du rêve à la réalité. Découvrez notre univers sur le balado Chez soi.
Prêt à vendre votre propriété? Avec Yann Genois, courtier immobilier, profitez de 12 ans d'expertise, d'un service humain et de stratégie qui rapportent gros. Maximisez la valeur de votre propriété dès maintenant. Contactez Yann Genois ou visitez yanngenois.com.
Yann Genois, votre vision, votre succès immobilier.
Dans les Etchemins, on a tout ce qu'il vous faut pour profiter de l'hiver. Des sentiers de rando et de motoneige, des endroits pour glisser, des microbrasseries pour vous réchauffer et une tonne d'activités gratuites pour décrocher à petit prix. tourismeetchemins.qc.ca.
Le tournoi Pee-wee de Québec est de retour pour une 66e édition. Venez vivre cette magnifique tradition et encourager des équipes Pee-wee de partout sur la planète. Une programmation incroyable vous attend du 11 au 22 février au Centre Vidéotron. Pee-wee, tu veux être là.
La remise météo fait son grand retour cette année chez Enviro-Confort. Économisez gros sur votre facture avec 15 % de remise en janvier, 10 % en février et 5 % en mars. Et c'est sans parler des subventions. L'offre est disponible jusqu'au mois de mars sur les thermopompes murales et centrales. Profitez-en pendant qu'il fait encore froid. Financement disponible. Détails au enviroconfort.com.
Hey Julie! T'avais pas mal au coude?
Plus maintenant, je prends Génacol anti-inflammatoire.
Hein? T'es pas trop jeune pour ça?
Ben non! Prendre Génacol pour soulager ses articulations, c'est pas une question d'âge. Mon coude était enflé et douloureux. Alors j'ai choisi Génacol anti-inflammatoire puisqu'il réduit efficacement l'inflammation. Ça me fait vraiment du bien. Essaie-le! Tu peux même télécharger un coupon rabais sur génacol.ca.
Toujours lire l'étiquette et suivre le mode d'emploi.
Génacol, tu me fais du bien!
Vous êtes préoccupé par le langage ou les apprentissages de votre enfant? Chez Parole et compagnie, nous offrons des évaluations et des services d'orthophonie sur mesure. Notre équipe professionnelle et bienveillante est là pour vous aider, en clinique ou à distance. Rendez-vous au paroleetcompagnie.ca.
Ce moment de détente vous est gracieusement offert par Voyage Thomasin Saint-Hilaire. Notre équipe est disponible pour donner vie à vos plus beaux projets de voyage. Voyage Thomasin Saint-Hilaire, des souvenirs qui comptent vraiment.
Ça, c'est le son d'une Toyota Prius hybride branchable qui utilise le moteur à essence pour une escapade à l'extérieur de la ville. Et ça, c'est le son de la Prius qui utilise l'énergie de sa batterie pour un dîner à l'extérieur du bureau. Deux extrêmes, une Prius hybride branchable avec jusqu'à 962 km d'autonomie combinée. C'est l'heure de conduire la vôtre, c'est l'heure Toyota. Découvrez de nouveaux modèles emballants comme la Prius hybride branchable. Visitez htmatoyota.ca ou votre concessionnaire Toyota du Québec aujourd'hui.
Laissez Bouffe et compagnie s'occuper du souper. Repas savoureux prêt en quelques minutes et renouvelé chaque semaine. Fini les casse-têtes. Bouffe et compagnie s'occupe de tout. Bouffe et compagnie, authentique et gourmand depuis plus de 10 ans. Bouffeici.com.
Vous cherchez un appartement à Sainte-Foy? Chez Immeubles Roussin, les unités sont toujours bien situées et plusieurs ont été fraîchement rénovées. Résultat, elles partent très rapidement. Réservez avec un groupe immobilier de renom où le service est une priorité. ImmeubleRoussin.com.
Cet hiver, offrez à votre maison le confort qu'elle mérite. Avec Caron et Gay, profitez du triple verre au prix du double, en plus de profiter de 12 mois sans intérêt sur votre financement. Isolation supérieure, économie d'énergie, sans compromis sur le prix. Pour une durée limitée, caronetgay.com.
Le Scylla, wow! Entre ville et nature, situé à Saint-Romuald et à 2 minutes des ponts, vous serez charmé. Près du parc La Relâche et de tous les services, les Scylla 1, 2 et 3 n'attendent que vous. Promotion jusqu'à 2 mois gratuits. Informez-vous, info à commercial, scyllalévis.ca.
T'es autant intéressé par ce qui se passe à Québec que par ce qu'il y a de nouveau dans le monde du rock? Boulevard 102.1. Tes sujets, ton rock, ta radio.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
Encore quelques minutes ce soir avec Benoît Dutrisac qui nous donne une heure de son temps. Travailles-tu beaucoup, Benoît Dutrisac, toi?
J'ai décidé que ce que j'en faisais, c'était assez. Je fais à peu près presque 4 heures de radio par jour.
Ouais.
Je me dis, c'est en masse. Puis, sincèrement, si j'ai pas le temps de dire ce que j'ai à dire en 4 heures par jour, je me suis trompé de job. Là.
Exact.
Fait que c'est assez. Puis, j'ai pas le goût plus que ça de me voir la face à la télé. J'aime pas ça voir les enfants pleurer. Fait que je suis correct. Ça va.
Benoît Dutrisac est arrivé comment à télé? Parce que moi, je te lisais dans Le Voir. J'avais l'impression que tu étais très gauchiste quand je te lisais dans Le Voir. Puis quand je t'ai entendu à la radio, je dis, le gars, il est à gauche, des fois, il est au centre, il est souvent dans le gros bon sens. T'avais-tu ça? Est-ce que les gens te placardaient très, très à gauche tout le temps, comme moi, j'avais l'impression que tu étais?
C'est extraordinaire, parce qu'il y en a qui me disent à gauche, il y en a qui me disent à droite. J'étais à ça d'avoir été un lieutenant pour Mussolini. D'où ça vient, tout ça? Ça, encore une fois, on revient à la perception des gens. Ouais. Tu me parlais de la colère. Je peux rien faire pour ça. Si t'accroches à une phrase sur tout ce qu'on peut dire dans une journée, c'est sûr que tu peux le sortir hors contexte. Moi, il y a des fois, je trouve que Québec solidaire a des propositions qui se tiennent. Il y a des fois, je trouve qu'Éric Duhaime a de l'allure. Mais je trouve que, tu sais, je vais par le cas par cas, parce que notre plus grosse maladie présentement, c'est pas d'écouter le message, c'est de regarder c'est qui le messager. Puis en fonction du messager, tout à coup, tu décides, avant d'avoir entendu le message, si tu vas être contre ou pour. S'il n'y a pas d'allure.
Tu as étudié à l'UQAM en journaliste, tu as étudié aussi en cinématographie, c'est ça?
Oui.
Qu'est-ce que tu voulais faire à l'école quand tu étais à l'UQAM? Tu voulais absolument être journaliste, je comprends, mais au cinéma, tu voulais faire quoi?
En fait, j'ai étudié la scénarisation à l'UQAM parce que moi, je voulais écrire. J'ai écrit un film, une série de télé à Télé-Québec. J'ai écrit des romans, j'ai écrit des articles, j'ai écrit deux bandes dessinées pour enfants. Moi, j'aime ça. J'ai un roman là, puis je le sors pas, parce que ça me tente pas de négocier avec des éditeurs, puis à faire des compromis, ça me tente pas. J'ai écrit le film, il est là, il y a des producteurs qui l'ont. Et ils vont me revenir. Mais je l'ai écrit pour le fun, mais je vais te dire, c'est sûr que ça ne sera jamais produit au Québec. Là. Jamais non. Produit au Québec. C'est trop rough. Fait que je voulais faire ça, puis j'ai étudié le journaliste à l'Université de Montréal. Puis à un moment donné, j'ai arrêté avant la fin de du certificat parce que je trouvais que le prof parlait plus de lui-même que de parler de journalisme et de journaliste. Et ce qui, alors, j'ai fait mon éducation aussi en lisant beaucoup, puis en essayant de comprendre ce qui était plus intelligent que moi. Puis je te jure qu'il y en a 13 à douzaine. Fait que, tu sais, la culture américaine, culture québécoise, culture française, j'ai vraiment essayé de comprendre, puis de lire, tu sais, des gens beaucoup plus intelligents que moi. Puis ça, la lecture de livres, il n'y a rien de comparable. Puis je ne parle pas de lire un article dans un magazine ou de lire c'est rien, un livre. Il y a une réflexion plus profonde que n'importe quoi d'autre, puis il y a des fois, ça vaut la peine.
T'avais-tu des modèles, que ce soit à la télé ou à la radio, de personnes que tu suivais, que tu appréciais, que tu trouvais incroyables?
Mm. Surtout 60 Minutes avec Mike. Il y avait 60 Minutes, il y avait Letterman. Qui me faisait rire à l'époque où il n'était pas démocrate à temps plein, puis qu'il devait le prouver. Là, à l'époque où il était sarcastique, je trouvais ça extraordinaire. Puis de refuser de jouer la game des médias, David Letterman a été une grosse influence. Mike Wallace, de 60 Minutes, quand il est allé voir l'Ayatollah Khomeini, puis il dit, il y en a qui disent à l'Ayatollah, c'est pas mes mots, parce qu'ils ne voulaient pas se faire décapiter. Il y en a qui disent que vous êtes cinglés. J'ai trouvé ça bon en tabarouette. Sincèrement, je prenais des notes. Il y avait des journalistes ici et là que je suivais, mais ça a été, pour la télé, ça a été vraiment des influences où tu regardes et tu dis... Charlie Rose, avant qu'il se fasse pogner à montrer ses fesses en sortant de la douche à son équipe, il faisait des entrevues qui étaient redoutables, pas parce qu'il coinçait, mais parce qu'il suivait l'invité, puis des fois, il le précédait, puis il posait la bonne question pour l'amener à avoir un propos. Vraiment, c'est du monde qui est, en général, des hommes qui m'ont beaucoup inspiré. Il y a Denise Bombardier aussi qui osait contredire Justin Trudeau, puis les francs-tireurs sont venus de là aussi. Tu sais, oser contredire ton invité, alors qu'il vient, puis dire non, ça ne marche pas ça.
Ah, et quand elle a ramassé le pédo en France, ça valait de l'or. Là.
Une vraie beauté, mais ça, tu sais, ça, c'est des modèles à suivre. Puis présentement, qu'est-ce que tu as? Tu as des humoristes qui interviewent des humoristes. Télé-Québec, c'est gênant. C'est gênant, tu sais, Télé-Québec. Là, il y a Stéphane Bureau qui travaille là, puis ça vaut la peine. Là, tu dis, OK, mais lâchez-nous avec les humoristes qui s'interviewent entre eux. Tu sais, donner de la job, pas moi, on n'a pas besoin, là, mais à des gens qui vont faire des entrevues, tu sais, qui vont peut-être amener les humoristes à dire autre chose que ce qu'ils se disent présentement. Là. Moi, je trouve ça navrant. Puis alors que les humoristes ont une influence réelle sur les Québécois, les Québécoises, puis j'aimerais ça, tu sais, qu'ils l'utilisent.
Est-ce que Benoît Dutrisac, dans Jeune Soixantaine, est-ce qu'il reste des rêves au niveau personnel à atteindre, au niveau professionnel? Là, je veux dire, avoir un auditoire, vous ne l'avez pas pire, parce que je regardais nos sondages il y a de ça quelques temps quand c'est sorti, puis j'ai été agréablement surpris par la montée vertigineuse du 99.5 à Montréal. Il te reste-tu des rêves à atteindre, Benoît?
C'est fou. Les